de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est la dernière émission de l'année, une émission un peu spéciale parce que comme bien chaque année, on décide de faire un immense blind test. D'habitude on écoute 5 extraits, il faut trouver les titres, et bien cette fois-ci ce seront 10 extraits à écouter. Alors deux films sortis en 2025 et qui figurent dans le top 20 des entrées, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 400 000 entrées en France. Mais toi Guillaume, tu vas aussi nous parler d'un film.
Oui, le dernier film d'Antonin Perejatko, pour bien finir l'année, hein, avec Vadé Rétro.
Je vous parlerai aussi de deux films qui sortent en cette fin d'année, qui brillent au combat de la comédienne Joséphine Japy. Ce sera l'occasion, alors non pas d'écouter la réalisatrice qui malheureusement était malade au moment où nous avions programmé l'interview, mais nous avons eu son producteur et son actrice Sarah Pachou. Mais nous allons commencer avec deux scaphandriers, frères et sœurs, qui découvrent de la drogue sous un cargo et décide de franchir la ligne pour s'en sortir. Nous parlons de Los Tigres d'Alberto Rodriguez.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Cinérama.
Il y a 10 ans, la Isla Mínima polar dans les marécages du delta du Guadalquivir avait marqué les esprits. 3 ans après, avec L'homme aux mille visages, Alberto Rodriguez signait un thriller politique captivant. En résumé, le réalisateur espagnol sait faire du cinéma et il le prouve encore avec son nouveau film Los Tigres, soit les tigres. Un film entre polar, mélodrame familial et thriller qui, cela n'est pas commun, se déroule dans le domaine de la plongée sous-marine industrielle. La première séquence donne d'ailleurs le ton, hein, car nous sommes placés avec des plongeurs qui doivent résister à de forts courants, donnant la mesure de ce qui attend les personnages principaux. Un frère et une sœur qui sont sur le même bateau, mais pas avec les mêmes rôles, hein, ni la même aura. Le frère, c'est le héros, celui qui se sort de toutes les situations, un chef d'équipe. Et la sœur, elle, aspire à quitter le rafistolage de cargo pour être plutôt chercheuse dans un parc naturel. Le contraste.
Un jour, eres feliz, y a los 3 segundos, estás muerta.
Uno, dos.
Le métier de ces plongeurs industriels est à risque, hein. Ils plongent en mer pour réparer, souder, découper. Pour le réalisateur, ces plongeurs sont un mélange de plombiers et d'astronautes, hein. Ils forment une communauté soudée car chacun dépend du comportement des autres. La vie va bon train jusqu'à ce qu'Antonio voit caché dans la coque d'un cargo, donc de la drogue. Il en parle à sa sœur Estrella car pour lui, avoir de l'argent, eh bien, ce serait le moyen d'adoucir les relations avec la mère de sa fille, hein, puisque la mère lui interdit de voir sa fille comme il l'entend. Alors il a plutôt bien fait d'en parler à la frangine, car elle imagine un plan pour ne pas se faire prendre. Plutôt que de shipper un gros paquet, mieux vaut prendre des petites quantités chaque fois que le bateau vient se faire réparer. Mais toucher la drogue, pour ceux qui ne sont pas dans le business, au cinéma, ça finit jamais vraiment très bien. Tout en insufflant une dose de thriller, le réalisateur ne perd pas de vue ce qui tient le film, la relation entre le frère et la sœur, et puis une scène de leur enfance qui a scellé leur comportement. Et à mesure que le film progresse, eh bien, les deux protagonistes vont s'en détacher et vont évoluer jusqu'au dénouement. Les scènes de plongée sous-marine sont remarquables, tout comme le jeu des acteurs. Los Tigres n'est pas un film des grands effets, hein, on n'est pas dans Abyss, mais c'est plutôt une œuvre sensible, tourmentée et douce à la fois, dans la torpeur de ce port de l'ouest de l'Espagne. Los Tigres est en salle depuis le 31 décembre. Nous allons revenir sur cette année 2025 d'une manière un peu particulière. Nous allons jouer un blind test pour évoquer eh bien, 10 films qui figurent dans le top 20 des meilleures entrées en France. Autant le rappeler, dans ce top 20, il n'y a que 4 films français. Voilà. C'est peu. Le reste, ce sont des films évidemment américains. Aucun film ouzbek, ni islandais, ou que sais-je. Donc, le principe est très simple. On va le faire en deux parties, hein, ce blind test, parce qu'il y a 10 extraits. Nous allons d'abord écouter 5 extraits. Donc, je le rappelle, un film sorti en 2025.
T'aimes les discussions franches ?
Claire et nette, sans détour.
Tout le monde dit que Ruben est devenu fou. Qu'il se fait des illusions. Ils disent qu'il a peut-être même perdu un pari ou qu'il a écrasé ton chien. Ils disent aussi que Sonny Hayes ne peut pas être un has-been parce qu'il n'a jamais rien été.
J'aime le franc-parler, mais juste pour moi. Quand ça vient des autres, je préfère la flatterie, l'adulation, même quand c'est juste de l'hypocrisie.
C'est à ça que Ruben te sert.
Ruben, je l'adore. Le plus sincère, dévoué...
Tu lui as demandé si j'étais mariée.
Déloyal, méchant et tordu de tous les fils de pute.
Le gros indice était Sonny Hayes. Alors il se trouve que la voix française de l'acteur a été modifiée. Pourtant, il me semble que c'est la version française que j'ai prise. C'est la deuxième meilleure entrée de l'année en France. 3,2 millions d'entrées pour F1, le film de Joseph Kosinski. Donc c'était Brad Pitt que nous entendions et il parlait de son collègue Javier Bardem. Plongée spectaculaire dans les coulisses de la Formule 1, le film suit le retour d'un pilote vétéran confronté à une nouvelle génération de champions. Entre rivalité sportive et quête de rédemption, la mise en scène immersive restitue toute la tension et la vitesse des circuits. Et l'intérêt de ce film, c'est qu'il il mêlait tout simplement des pilotes actuels du championnat de Formule 1 à l'intérieur du film, et on avait l'impression de vivre des courses telles qu'on les vit actuellement pendant le championnat.
Par contre, le scénario était bien une fiction.
Ah oui, non, c'était un scénario très hollywoodien, mais sinon je trouve que la part immersive est vraiment très réussie, et puis ça apprend des choses quand même sur le fonctionnement d'une Formule 1 et des équipes. Deuxième extrait de ce blind test, nous cherchons un film sorti en 2025.
Vous allez vous rendre au bunker de l'apocalypse et laisser entrer l'entité. Ça, c'est écrit.
Jamais.
La fin est proche, Ethan. Vous l'avez toujours su. L'entité est un espoir pour l'avenir. Les rares survivants seront plus forts.
Et les enfants de l'atome se relèveront de la poussière.
Grâce à l'entité, ils rebâtiront un monde meilleur.
Mais seulement si vous la laissez entrer.
Et sinon, qu'est-ce qui se passera? Si vous détruisez le monde, vous vous détruisez vous-même.
Le choix vous appartient. Le futur de l'entité, ou pas le futur du tout.
Laissez le monde être réduit en esclavage, ou laissez le monde être détruit.
Maintenant, c'est vous qui êtes l'élu.
Trouver, c'était un peu facile.
C'est Mission Impossible, Dead Reckoning, ou non, The Final Reckoning.
Oui, The Final Reckoning.
Dead Reckoning, le précédent devait être en deux parties, et en fait, là, ça s'est transformé en Final Reckoning.
Oui. Ethan Hunt affronte sa mission la plus périlleuse dans une course contre la montre aux enjeux mondiaux, et ce dernier volet de la saga privilégie l'action extrême et le suspense. 2,4 millions d'entrées en France pour ce film qui était moins bon que le précédent quand même, il faut bien l'avouer. Allez, troisième extrait, un film sorti en 2025.
Mais non, Dad, c'est rien, c'est le jet lag, le décalage horaire.
Décalage horaire, bien sûr, t'as raison.
Oui.
C'est la solution. Tu me retires d'un poids énorme, je vais pas mourir. Merci, mon Dieu.
Papa, il y a qu'une heure de décalage horaire entre la France et l'Angleterre.
Une heure de décalage horaire? Ben attends, ça veut dire que ça fait 60 minutes, sauf si t'es en retard d'une demi-heure, là, ça fait 30 minutes de décalage horaire.
Le côté est bon, monsieur Romeshko, les lettres.
Voyelle.
Consonne.
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 Voyelle.
Oh, vous me fatiguez, là.
Ah, tu vois, toi aussi t'es fatigué, c'est le décalage horaire.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, je vais me coucher bientôt, moi je dois me lever tôt, j'ai un petit déjeuner à Oslo.
Oh, mon Donald, t'es un poète, tu fais des vers.
Et voilà, t'en que de merde. Arrête, il veut lire.
Ben oui, mamie, tout le monde a envie de dormir. Cette journée a été éreintante.
Tiens, je crois qu'on sonne.
Voyelle.
Je suis en pleine forme, j'y vais, t'as la cabri.
Cabri, qu'athlète, K-A-B-R-Y.
Ah non, ça c'est Motus.
Motus. Motus.
Difficile de cacher
l'accent.
Ouais, oui.
Oui, c'est le dernier volet des Tuches.
God save the Tuche. La famille Tuche se retrouve une nouvelle fois projetée dans un univers institutionnel qui la dépasse. Elle est en Angleterre. 3 millions d'entrées en France pour ce film. Nouvel extrait.
Après avoir arrêté cette guerre, je suis allé voir Gourcos.
Où ça ?
Dans la capitale, Loutchebik, au Palais Royal.
Et alors ?
J'ai organisé une audience privée avec Gourcos.
C'est-à-dire ?
Je l'ai emmené avec moi dans le désert et je l'ai...
Et vous l'avez ?
Je l'ai plaqué contre un cactus.
Un cactus. En gros, vous l'avez torturé.
Non, pas torturé. Les épines n'étaient pas plus grandes que ça.
Que lui avez-vous dit ?
Je lui ai expliqué que s'il s'en prenait encore au Jarenpur, alors il aurait personnellement affaire à moi.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Que si une telle éventualité devait avoir lieu, on aurait une conversation plus sérieuse, c'est tout.
Plus sérieuse que de lui labourer le dos sur un cactus ?
Gourko allait faire tuer des civils, vous oubliez ce détail.
Donc en gros, vous êtes entré illégalement dans un pays pour vous mêler d'une situation géopolitique extrêmement
tendue. Attendez une seconde.
En vous rangeant du côté d'une nation, le Jarenpur, qui n'est historiquement pas une alliée des États-Unis, contre une autre nation qui est notre alliée de longue date, avant d'enlever et de menacer de tuer leur chef d'État.
Pour commencer, que le Jarenpur soit un pays modèle ou pas, ça ne donne pas le droit à un autre pays de l'envahir.
Le gouvernement boravien soutient qu'il ne fait que libérer les Jarenpuriens d'un régime tyrannique.
Oui, mais vous savez que c'est tout à fait grotesque.
Vous en êtes sûr ?
C'est trouvé.
C'est la nouvelle version de Superman par James Gunn ?
Oui. Cette nouvelle incarnation de Superman s'attache à l'équilibre fragile entre identité humaine et héritage extraterrestre. Le film propose une vision plus intime du super-héros. J'ai trouvé plus drôle, plus décomplexé, j'ai presque envie de dire. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas si bien marché en France. 1,5 million d'entrées seulement pour lui. Allez, nouvel extrait, dernier extrait de cette première partie.
Et la question reste...
Oh putain !
Quelle heure est-il ?
Si tu me dis pas tout de suite le lieu de rendez-vous, je te promets que je vais te retrouver et que je te collerai un putain de gros bâton de dynamite dans ton putain de cul.
Non, là, ça dérape dangereusement. Vous violez ma sphère privée.
Je viole ta sphère privée ? Mais putain, attends, es-tu dit révolutionnaire, mon frère ? On n'est même pas dans la même pièce, quoi. On se parle au téléphone,
on va s'entraîner, garçon.
Vous violez inutilement ma sécurité en hurlant de la sorte. Ce sont des nuisances sonores anxiogènes.
Je t'en foutrais, des nuisances sonores anxiogènes. Il y aurait quand même un truc que j'aimerais savoir, mis à part ça. Comment tu t'appelles, hein ? C'est quoi ton nom à la con ?
Mon nom, c'est Camarade Josh.
Ah, Camarade Josh, eh ben... Trouve-toi un autre nom, Camarade Josh. C'est carrément ridicule comme nom pour un révolutionnaire. Ça, c'est primo. Et secondo, j'exige de connaître ta géolocalisation précise. Où est-ce que t'es ?
Et c'est évidemment trouvé.
C'est une bataille après l'autre, Paul Thomas Anderson.
Et oui, on entend Leonardo DiCaprio dans une scène alors vraiment mémorable qui coupe avec tout l'ensemble du film finalement. Une scène vraiment hyper drôle qui est vraiment dans la durée. C'est une fresque contemporaine sur des trajectoires humaines marquées par les luttes intimes et politiques. 1,4 million d'entrées en salle pour ce film remarquable, je trouve, de Paul Thomas Anderson. Voilà, c'est ainsi qu'on referme la première partie de ce blind test sur les films sortis en 2025. On retrouve la seconde partie un peu plus tard. Mais avant, nous allons parler de Qui brille au combat, premier film de Joséphine Japy qui raconte le combat intime d'une famille face au handicap de leur enfant.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Joséphine Japy est une actrice maintenant devenue réalisatrice comme beaucoup de ses collègues ces derniers temps. Il y a Céline Salette, Noémie Merlan, Laetitia Deutsch ou encore Ariane Labède. Et pour son premier film, elle s'inspire de ce qu'elle connaît. Sa jeune sœur Bertie, comme se nomme d'ailleurs le personnage de la sœur cadette du film que joue Sarah Pachou. Sa sœur qui souffre d'un lourd handicap qui a eu des effets importants sur le reste de sa famille. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 22 ans du syndrome de Phelan-McDermid. Alors, il s'agit d'une maladie génétique vraiment rare du développement neurologique. Pour un tel sujet, Joséphine Japy adopte un ton conciliant. Il ne s'agit pas plus de montrer la maladie ou l'anormalité que le comportement de ceux qui l'accompagnent ou qui l'évitent. En effet, on distingue les rôles dans la famille avec la mère qui prend la charge mentale et le mari qui cherche, lui, des prétextes pour ne pas rentrer plus tôt que ça au foyer. Évidemment, ce qui transpire, c'est l'amour pour une fille ou une sœur et les solutions à trouver pour que la famille fasse sens. Il y a aussi quelque chose de la sororité qui s'exprime. La seule ombre au tableau est une histoire d'amour naissante entre la grande sœur qui passe son bac et un trentenaire toxique. Mais ce n'est qu'une ombre sur un film plutôt lumineux qui ne tombe jamais dans le pathos ou la culpabilité. La sœur handicapée est jouée par la jeune Sarah Pachou de manière très convaincante. Elle va nous en parler dans quelques instants. Nous avons pu la rencontrer. Nous aurions dû rencontrer Joséphine Japy, la réalisatrice, mais ça n'a pas été possible. Nous avons eu en échange son producteur et j'en suis désolé, je ne me souviens plus de son nom.
L'origine du projet, c'est tout simplement l'histoire de Joséphine, en fait. C'est son histoire personnelle. Comme je disais hier à l'avant-première, c'est 80% à 80% inspiré de son histoire personnelle parce qu'elle a une petite sœur qui est atteinte du syndrome Phelan-McDermid, qui est donc un syndrome qui empêche sa petite sœur de s'exprimer, de parler. Elle fait que des vocalises. Elle a un rapport au monde qui est évidemment très différent. Et donc, tout simplement, l'inspiration, elle vient de là. Elle en a d'abord parlé à sa famille pour avoir leur approbation quand même pour faire un film sur ce sujet. Et puis, ce que vous voyez dans le film, c'est vraiment quasiment... ouais, à 99% le inspiré de sa vie, de son combat, de la combat, du combat de sa mère, de son propre combat à elle, de cette famille qui essaye de se battre, d'essayer de vivre une vie normale, de comprendre ce que Bertie a, de pallier à cette errance de diagnostic. Donc toutes ces problématiques, elles sont vraiment inspirées de la vie de Joséphine, c'est pas un secret, elle en a parlé. Bertie, d'ailleurs, le vrai nom de sa petite sœur. Donc voilà, c'est vraiment une inspiration de sa vie, de sa propre vie.
Il était une fois un petit monstre d'un autre univers. Elle lui dit, mais tu n'es pas un monstre, personne te connaît.
On voulait évidemment avoir une représentation la plus vraisemblable de ce que ça peut être d'avoir un enfant atteint de ce syndrome sans que ce soit...
Larmoyant.
Oui, voilà, évidemment, larmoyant. Donc c'était un travail pour s'approcher de cette maladie. En même temps, j'ai pas ce syndrome, donc j'ai vu... J'ai repéré des choses communes à Bertie, à d'autres enfants qui en étaient atteints, mais enfin, à partir de là, je faisais aussi avec moi ce que j'étais et ce que je pouvais faire sans le copier, quoi.
Comment ils font tes parents avec ta sœur? Entre eux, ils ont plus de vie, non?
Et moi, tu te demandes pas comment je fais?
Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et on se débrouille avec ça.
Chaque jour, c'est un miracle.
C'était un des axes de travail avec Joséphine, c'était qu'il y a quelque chose comme le stade d'une toute petite enfance chez Bertie, dans la mesure où sa maladie implique une régression qui fait qu'elle parle pas, elle peut pas manger toute seule, enfin il y a tout un tas de choses qu'elle est pas capable de faire. Et donc oui, effectivement, il y avait quelque chose de l'enfance là-dedans, et oui, mélangé à... en même temps à l'habitude de 15 années à fréquenter ces gens, donc c'est pas du tout non plus la même chose, mais c'est un tout autre usage du corps, du langage, tout ça effectivement qui se rapproche dans un sens de la petite enfance.
Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie, vous vous en rendez compte? On va essayer de poser un diagnostic, on voit et on avance.
Il faut que tu prennes bien, Marion, tu dois penser à toi, sinon un jour tu vas en avoir marre.
Notre vie, en fait, c'est juste s'occuper d'elle. Je lui parle, elle me répond jamais. Je la prends dans mes bras, elle ressent rien. Je me dis que même la mort, ça lui fera pas mal.
C'était l'un des producteurs du film de Joséphine Japy qui brille au combat avec la jeune actrice Sarah Pachou. Le film est en salle depuis le 31 décembre. C'est le moment maintenant de terminer le blind test consacré au film sorti en 2025 qui figure dans le top 20 des meilleures sorties, quand même, pour faciliter un peu les choses. Allez, voici le premier extrait.
Ça va ?
Oui.
Ça va, allez, ma biche.
Papa ?
Si on le faisait pas ?
Tout va bien. Si on faisait pas quoi ?
Bah, si on ne donnait pas les prélèvements à une entreprise qui va créer un remède qu'elle vendra à un prix trop élevé pour 99% de la planète. La science est pour tout le monde, pas que pour certains. Vous y avez pensé?
Non, j'avoue.
Vous devriez commencer peut-être.
Et vous devriez arrêter peut-être.
C'est trouvé.
C'est l'horrible dernier Jurassic World qui pourtant s'appelle Renaissance.
Eh oui, ce nouvel opus relance la saga en interrogeant la coexistence entre humains et dinosaures dans un monde transformé. 3 millions de spectateurs en France pour cet opus effectivement un peu raté avec Scarlett Johansson que l'on entendait ici en voix française évidemment. Allez, maintenant c'est un film français, enfin.
Vous m'aviez pas dit que la voiture était vide la nuit dernière ?
Si. C'est Gilles qui l'a découverte. Il n'y avait personne dedans. Hein.
Il picolerait pas un peu, votre garde forestier?
Comme tout le monde, il picole quand il a soif.
Parce que le carnage, il date pas de ce matin.
Je peux?
Bien sûr. Attention, mademoiselle, hein, c'est pas joli, joli à voir.
Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, l'astico? Parce que je suis une femme, je vais pas supporter, c'est ça? Vous croyez que j'ai jamais une pâte de congélo? 5 kilos de barbac putréfié à foutre en l'air et pas un bonhomme pour le porter, le sac poubelle. Alors, attention, mademoiselle, vous le gardez pour vous.
Et c'est trouvé?
C'est un ours dans le Jura?
Et oui, film de Franck Dubosc qui va peut-être lui permettre de remporter un César, comme il l'attend. 1,1 million d'entrées en France pour cette comédie décalée où un événement improbable vient bouleverser la tranquillité d'un village jurassien. Et nous écoutions notamment eh bien, Benoît Poulvorde dans cet extrait. Allez, un nouveau film à trouver, sorti en 2025.
Vous l'avez lu donc, vous êtes au courant. C'est plutôt extrême comme boulot. Mais ce sera aussi un peu marrant. Je vous expliquerai tous les détails.
J'étais tellement troublé par cette odeur, l'odeur des cheveux de cette femme. C'était comme si ça faisait remonter un souvenir lointain ou un truc du genre.
Le réservoir géant qui est juste en dessous, c'est le recycleur. Il récupère les déchets organiques produits dans le vaisseau spatial. Pelures de pommes, os de poulet, œufs pourris, cadavres, déchets humains, absolument tout y passe. Ensuite, il les combine, les raffine, les recycle et après, il en envoie une partie dans cette imprimante. De la matière première pour corps humain. Suite à votre décès et à l'approbation du comité, on imprimera une nouvelle version de votre corps dans les 20 heures.
Et c'est trouvé.
Bah, c'était une des déceptions de l'année pour moi, parce que j'adore Bong Joon-ho depuis le début. Hein, et j'avoue que Mickey 17, dont il est question, laisse un petit peu sur sa faim.
Eh oui, nous retrouvions Robert Pattinson dans cet extrait. Dans un futur de colonisation spatiale, un homme est chargé d'effectuer les missions les plus dangereuses au prix de sa propre mort répétée, c'est-à-dire qu'il est dupliqué. À chaque fois qu'il meurt, il renaît finalement. Donc un peu plus d'un million d'entrées en France pour ce film, qui a été une déception pour d'autres personnes. Allez, nouvel extrait.
Tu vas marcher. Comme Chic Bala, t'es promis à de grandes choses. Encore plus que tout le monde. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Je te promets, Chic Bala, le miracle.
Alors, trouvé.
C'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.
Oui, film de Ken Scott. Nous l'avions écouté d'ailleurs dans Cinérama, puisque j'avais eu le plaisir de le rencontrer. Inspiré d'une histoire vraie, le film retrace le parcours d'un enfant atteint d'un handicap moteur et le combat quotidien de sa mère pour lui offrir une vie normale. Et sa mère, c'était Léla Bekti que nous entendions ici. Alors, 525 000 entrées en France pour ce film.
J'avoue que j'avais retenu parce qu'il a quand même un titre vraiment intriguant.
Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Dernier extrait de ce Blind Test, un film de 2025. Et quel film ?
Pourquoi l'architecture ?
S'agit-il d'un test ?
Non, en aucun cas. Rien ne contient sa propre explication. Y a-t-il une meilleure description d'un cube que celle de sa construction ?
Il y a eu une guerre. Et pourtant, d'après ce que j'ai entendu dire, la plupart de mes projets ont survécu. Ce que j'ai bâti est encore là, intact, dans la ville. Quand nous cesserons de nous sentir humiliés par les terribles souvenirs de ce qui s'est passé en Europe, j'ose espérer que nous nous en emparerons et en ferons au contraire un puissant levier politique qui amorcera les bouleversements qui ont si souvent lieu dans le cycle de vie des peuples.
Alors, c'est trouvé.
C'est The Brutalist, Brady Corbett.
Eh oui, eh ben oui, bah j'ai un peu galéré hein, pour trouver un extrait qui ne parle pas de l'architecture, mais voilà, c'est le portrait d'un architecte visionnaire confronté au compromis imposé par le pouvoir et l'histoire. Film absolument remarquable, sorti en début d'année, 410 000 entrées en France. Ainsi s'achève ce Blind Test consacré à l'année 2025, année qui se termine avec la sortie d'un film d'Antonin Peretchatko qui se lance dans la comédie vampirique absurde et irrévérencieuse. Nous parlons de Vadé Rétro.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Norbert, tu as mordu ?
Après le 14 juillet, après la jungle, après les soucis de mariage, Antonin Peretchatko s'attaque au film de vampire avec Vadé Rétro. Mais il ne va pas forcément s'éloigner de certaines préoccupations mises en scène dans ses précédents films, puisqu'il est question d'une date importante, hein, alors ici Halloween et sa fête. Il y a une jungle, hein, ou tout du moins une place prépondérante donnée à la nature, ce qui tranche des films de vampires plus classiques, hein, cloisonnés dans des châteaux gothiques, et il est question d'un mariage imposé pour un faux jeune homme qui a d'autres préoccupations en tête.
Pour entrer dans l'âge adulte, un vampire doit mordre. Sinon, une malédiction s'abattra sur sa famille
S'il ne mord pas rapidement, immortel, nous sommes foutus!
Norbert, jeune vampire de 352 ans, vit toujours chez ses parents, eux-mêmes logés dans un musée, et tarde à devenir pour de bon un vampire en bonne et due forme puisqu'il est réticent à l'idée de mordre quelqu'un et de prendre une femme pour l'éternité, voire de combiner les deux, mordre une femme pour passer l'éternité avec elle. Alors suite à une tentative de meurtre qui se conclut par une dent arrachée, il doit partir pour le Japon pour se marier le plus loin possible de son arracheuse de dents en trouvant une fille riche au sang pur. Mais le bateau échoue et Norbert et son fidèle serviteur Didier arrivent à Boulet Rouge, île sous le protectorat français. Le problème, c'est que Boulet Rouge est à la croisée de l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique et le Groenland, donc forcément régenté par le métissage. Dur de trouver là-bas une femme pure, idéale, surtout quand on débarque dans la clinique du professeur Franken, qui pratique entre autres le rajeunissement de sang. Alors, véritable aimant à vieux, qui ne sont pas ce qu'ils semblent être, Norbert doit repousser les avances de Marie Chelou, une femme nymphomane de plus de 80 ans mais qui en fait 20. Et c'est sans compter, bien sûr, son agresseuse du début qui retrouve sa trace et qui est bien déterminée à finir son boulot.
On trouve une jeune fille riche au sang pur sur cette île et l'affaire est dans le sac.
Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Les vampires, ça n'existe pas.
Vade Retro est un joyeux bordel, comme seul le cinéma d'Antonin Perejatko ou presque un sait nous en offrir dans le paysage audiovisuel français. Alors ça commence comme un film de Jean Rollin, avec des plans mêlant ressac de la mer sur des rochers et sur le cercueil de Norbert, convoquant toute la poésie macabre du maître du fantastique français. Mais ça part vite dans un esprit proche d'une bande dessinée délurée qui aurait le bal des vampires de Roman Polanski comme modèle, à la fois inatteignable et en complément franchouillard. On note aussi un gros hommage aux yeux sans visage de Franju, avec transplantation foireuse de visage, et on est à peu près au complet d'un carnaval réjouissant et volontairement déconnecté de ce qui se fait à l'heure actuelle.
Enchanté, Marie Chelou.
Puis de toute façon, les vampires ne peuvent pas rentrer dans une maison sans y avoir été invités.
J'aimerais beaucoup vous inviter dans ma chambre pour une petite partie de jambes en l'air. Le corps du Christ.
T'es vegan, votre truc ?
De la farine et de l'eau. Allez, ouvrez la bouche.
Mais le corps du Christ, il est vegan. Comment ?
Par l'opération du Saint-Esprit.
N'oublie pas, maintenant, quand tu veux mordre, il faut demander la permission.
Le consentement.
Toujours.
Perejatko s'amuse de l'image sexuelle des vampires, qui sont une métaphore du sexe à peine déguisée. Sauf qu'en 2025, quand on est un jeune vampire mal dégrossi, on est sommé par sa maman, jouée par Ariane Dombal d'ailleurs, de faire attention à qui on mord, à respecter la notion de consentement. Notre vampire est encore plus paumé que ce que sa candeur primaire le laisse supposer, et va devoir s'imposer dans un monde qui veut pas de lui. Alors serait-ce une métaphore de l'artiste ou d'un type d'artiste comme Perejatko, constamment anachronique dans ses mises en scène et les humeurs qu'il convoque, mais toujours aussi drôle quand il est libre de faire ce qu'il veut, à savoir délivrer une joyeuse anarchie absurde. Après tout, comme le dit Didier, le serviteur de Norbert, la réalité n'est-elle pas un miroir déformé de l'enfer ? Donc l'une des réponses, ça vient de son casting à mon avis, parce que dans le rôle de Norbert, il y a Esteban, nom d'acteur du fils de Philippe Clerc, immortel réalisateur de Plus beau que moi tu meurs, ou Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, dans lequel il apparaît enfant. Tout s'explique. Il revient devant la caméra de Perejatko 12 ans après La fille du 14 juillet, comme un manifeste culturel du réalisateur. Alors dans le titre Vade Retro, il faut peut-être retenir le rétro, clairement ce que vise Perejatko dans son esthétique, son humour et son état d'esprit, ce qui n'est pas pour nous déplaire puisque c'est de là que découle tout le charme de son cinéma, à la fois anachronique et complètement intemporel par son absurdité.
Ça a été un tournage assez compliqué, ça devait se tourner au Japon et puis la pandémie est venue mettre un peu le bazar là-dedans. À noter que si Esteban joue, alors c'est pas vraiment un rôle principal parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait autour de lui.
C'est vrai, le fameux Didier a beaucoup de place, ouais.
Parce que j'avais un peu peur de Esteban qui est pour moi, avant d'être un acteur, c'est plutôt une tronche et une voix, donc voilà. Mais finalement ça passe très bien et il n'était même pas censé faire le personnage du vampire, d'après ce que j'ai lu en tout cas.
Voilà. Il colle plutôt bien, ce drôle de Béné qui cherche à trouver un sens à son existence.
Ouais. Alors après je trouve ça beaucoup plus débraillé que La fille du 14 juillet, que La loi de la jungle ou même La pièce rapportée qui était peut-être son film le plus adouci. Moi je trouve qu'on prend quand même beaucoup de plaisir parce que bon, il s'amuse avec cette histoire de vampire à nous parler finalement. Alors tu parlais du consentement, effectivement le vampire.
Mais on parle de l'identité aussi, ouais.
Du racisme, enfin ouais. Voilà, ça lui permet de mettre en scène des questions de notre époque.
Oui, alors bien sûr pas non plus au premier plan, ça reste des ressorts comiques, même si on ne se moque pas de ces thématiques là dans le film.
Vade Retro, un film d'Antonin Perejatko, est en salle depuis le 31 décembre.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve pour la première émission de l'année à parler finalement encore de 2025 parce qu'on vous parlera, nous, membres de l'équipe, eh bien, des trois films de 2025 qu'on a préférés. Mais on aura aussi eh bien, des films qui sont sur les écrans dont on vous parlera. À la semaine prochaine et surtout à l'année prochaine.